affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme l'a démontré l'émotion qui étreint le peuple français à l'annonce récente de la disparition de Charles Aznavour, la France et l'Arménie entretiennent des liens qui relèvent de l'affinité élective. C'est ainsi, les Français éprouvent une sympathie, pour ainsi dire spontanée, pour les Arméniens et se plaisent à penser que la réciproque est vraie. Ainsi, lorsque tout récemment Emmanuel Macron s'est rendu à Erevan, pour un sommet de la francophonie, nous n'avons douté à aucun moment qu'il ne soit accueilli non seulement avec des égards diplomatiques dus à son rang, mais aussi fraternellement, tout simplement parce qu'il est français. Et nous ne doutons pas que l'Arménie puisse éprouver de l'intérêt pour notre langue. Nous avons ainsi pour l'Arménie de l'affection, parfois teintée de compassion en raison des malheurs qui ont frappé ce pays au cours de son histoire, mais reconnaissons-le, nous connaissons plutôt mal l'Arménie, nous connaissons plutôt mal son histoire et encore moins sa langue. Notre émission de ce jour devrait toutefois contribuer à combler cette lacune. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio M. Jean-Pierre Mahé, qui vient de publier aux belles lettres un ouvrage consacré à l'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire. Un beau titre qui vend la mèche en quelque sorte, puisqu'il laisse déjà entrevoir combien l'alphabet et la langue arménienne tiennent une place singulière dans l'histoire et l'identité de ce peuple. Monsieur Mahé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois préciser que vous êtes membre de l'Académie des inscriptions à belles lettres, membre et membre associé des académies d'Arménie et de Géorgie, et que vos recherches ont principalement porté sur l'historiographie du 5e et du 15e siècle dans le Caucase. J'ai aussi omis de préciser que votre ouvrage s'appuie en réalité sur deux sources, deux livres, un premier datant du 5e siècle, le second du 13e siècle. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ces deux ouvrages de façon à ce qu'on saisisse la structure du livre et du propos qui sera le nôtre aujourd'hui?
Alors, comme vous l'avez remarqué, dans le titre, il y a le mot « histoire » et le mot « mémoire ». Et finalement, ce sont deux attitudes extrêmement différentes à l'égard du passé. Si vous voulez, l'histoire, c'est essayer de reconstituer, de comprendre, de dater très exactement un événement. Et la mémoire, au contraire, c'est de dégager le sens de cet événement, de le commémorer, de le dégager son sens sur la longue durée. Et d'une certaine façon, quand on célèbre la création de l'alphabet en 405, ça c'est de l'histoire, mais quand on essaye d'en tirer toutes les conséquences sur le destin de la nation arménienne, ça c'est de la mémoire. Alors j'ai choisi pour cela donc un témoin des événements au 5e siècle, et puis quelqu'un qui, 800 ans plus tard, est amené à célébrer la fête du saint qui a inventé l'alphabet, pour bien montrer la différence entre les deux choses. Donc, Koryoun, le premier auteur, a très très bien connu Mesrop Mashtots, qui est l'inventeur de l'alphabet arménien. Il l'a connu depuis son enfance et depuis sa propre enfance à lui, je veux dire Koryoun, et pendant toute sa vie. Il est probable qu'il faisait partie d'un groupe d'enfants dont on nous dit qu'ils étaient jeunes, qu'ils étaient robustes, qu'ils avaient longue haleine, parce qu'ils devaient devenir des chantres d'église, donc il fallait qu'ils puissent chanter des choses, et que Mesrop Mashtots, l'inventeur de l'alphabet, avait arraché à leur village, sur ordre du roi, pour en faire de futurs élèves de l'alphabet et de futurs religieux. Et donc, il a accompagné le maître en Mésopotamie. Il a été envoyé par lui d'abord en Syrie et ensuite il a été envoyé à Constantinople. Il est rentré en Arménie et il a fait tous les services d'église qu'on lui a demandé. Et quand le maître est mort en 439, c'est lui qui a été chargé par son successeur d'écrire le récit de la vie qu'on allait réciter et qu'on récite en réalité depuis plus de 1700 ans tous les mois de septembre au moment de la fête des saints traducteurs.
Alors on y reviendra, mais ce qui est fabuleux, c'est que d'emblée, en fait, cette biographie ou cette hagiographie se présente presque comme une sorte de petit évangile. Enfin, quand on...
Oui, une sorte de petit évangile.
Il y a le maître, le disciple et celui qui était témoin et qui rapporte.
Absolument. Et vous le dites tout à fait à propos parce que cela est souligné dans la conclusion qui est manifestement parallèle à la fin de l'évangile de Jean. Il y a encore beaucoup d'autres miracles, mais nous ne les avons pas racontés. Et en revanche, ce dont on peut être sûr, c'est que toutes les affirmations, très concises d'ailleurs, qui sont données dans la vie de Machtots par Corioun, ont été ou bien directement vécues ou en réalité très vérifiées par le biographe. On est donc sur un terrain strictement historique. Le seul problème, c'est de percer un peu les non-dits de ce texte.
Très bien. Ça, c'est pour la partie histoire.
Et pour la partie mémoire...
S'agissant de la partie mémoire, de quel texte s'agit-il ?
Alors là, mémoire, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme, Vartan, qui a passé toute sa vie dans le monastère. Il a probablement été mis comme enfant ou très jeune, comme novice. Et il avait un maître extraordinaire qui s'appelait Vanakan. Et pendant que le maître était en train de les initier à la plus haute philosophie, voilà qu'arrivent des hommes dont on n'avait entendu parler dans aucune chronique, qui avaient la tête très ronde, qui avaient des yeux, fendus en amande, et qui avaient le nez moins saillant que les pommettes. Et ils montaient à cheval, à toute vitesse, ils avaient des arcs redoutables, c'était les Mongols. Et aussitôt qu'on les a vus, on a dit « c'est les descendants de Gog et de Magog qui viennent de l'autre bout de la terre, pour, comme il est annoncé par Saint Nersès sur sa prédiction sur la fin du monde. » Donc inutile de résister, c'est la fin du monde qui arrive. Et je passe là-dessus. Il a été il a réussi, lui, à échapper aux Mongols, et il est parti de l'autre côté des montagnes du Taurus et de la Manus, et il a rencontré un endroit où s'était retranché le roi d'Arménie sur la côte cilicienne, puis il est allé à Jérusalem. À Jérusalem, il a été extrêmement déçu parce qu'il n'y avait rien à voir. C'était dans une petite ville de province pas très intéressante, en tout cas au point de vue des livres et des manuscrits. Et donc, il est revenu auprès du roi. Il a été conférencier à la cour et après, il est rentré en Arménie. Et il a fait une carrière de savant dans les monastères, puisque la paix était encore revenue avec les Mongols.
Et là, vous vous intéressez à lui, car il a écrit une sorte de panégyrique des saints traducteurs, donc de même
Machtots. Donc 800 ans après, pour l'inauguration d'une grande salle, en 1257, on lui demande d'écrire un discours solennel, célébrant, enfin, ce qu'on croyait savoir à l'époque, des inventeurs de l'alphabet. Effectivement, l'histoire avait beaucoup changé, on verra tout à l'heure.
Alors peut-être faut-il commencer par là, parce que pour un certain nombre d'entre nous, et c'était mon cas en plongeant dans votre ouvrage, j'ignorais que l'alphabet arménien, à l'instar du cyrillique, avait été en quelque sorte créé, fabriqué de toutes pièces par un homme, même si bien sûr celui-ci ne le dirait pas comme ça.
Voilà, alors fabriqué quand même plus de 300 ans avant le cyrillique, ou plus de 400 ans, oui non, 300 ans avant le cyrillique. Hein. Mais c'est un point très important, assez tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arménie est toute proche de la Mésopotamie, de la Syrie, et que les premiers alphabets du Proche-Orient datent du deuxième millénaire avant notre ère, l'alphabet grec, début du premier millénaire avant notre ère. Et donc, c'est surprenant que les Arméniens aient attendu le 5e siècle de notre ère pour avoir un alphabet national.
Alors pourquoi ?
Eh bien, parce que nous sommes dans un monde qui est entièrement différent de l'univers, je dirais, hellénistique et romain, de l'œcuménée, voilà, hellénistique et romaine. Nous sommes dans un monde perse, hein, iranien, si vous voulez. L'Arménie n'est pas un peuple iranien, mais il fait partie de l'Empire achéménide depuis très très longtemps. Il est resté gouverné par des rois parthes. Enfin, il y a des affinités. Et dans ces traditions, eh bien, les choses importantes ne doivent pas être écrites. Il faut les graver dans la mémoire, il faut les savoir par cœur. Pensez, par exemple, je ne sais pas, à l'Avesta, hein, le grand livre religieux. Eh bien, ce que nous en connaissons, c'est des bouts de récitation qui avaient été écrits pour faciliter assez tard la célébration de certaines cérémonies. En réalité, vous voyez, il y a une chose qui est très très frappante et très amusante pour nous, étrangers. C'est que celui qui écrit, ça, il s'appelle comme ça, l'écriveur ou l'écrivain, c'est le diable. C'est le diable. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a mis des anges ou des démons policiers sur l'épaule de chacun des êtres humains, lesquels inscrivent à toute vitesse tous les péchés que nous commettons et nous les font, nous présentent l'addition dans l'autre monde. Et au fond, le diable ne fait qu'appliquer, celui qui écrit, ne fait qu'appliquer dans l'autre monde ce que les rois de cette terre font dans le monde. Qu'est-ce qu'on écrit avec des lettres, des lettres, n'est-ce pas ? Uniquement des choses malhonnêtes. Uniquement des choses malhonnêtes, des feuilles d'impôts, des taxes, des lois pénales, des annales royales scandaleuses. Je suis venu dans ce pays par la force du dieu untel, j'ai tué tant de personnes, j'ai fait tant de prisonniers, j'ai emporté telle tribu. Rien d'honnête ne s'écrit. Donc, pendant très longtemps, c'est-à-dire tant que l'Arménie n'a pas été chrétienne, c'est-à-dire adepte d'une religion du livre, il n'était pas nécessaire de créer un alphabet national. Et encore, quand elle est devenue chrétienne, il a fallu attendre 100 ans avant qu'on crée cet alphabet.
Oui, alors dans quelles circonstances ? Parce que là, on retrouve du coup l'histoire de Machtos, parce que lui-même est un fonctionnaire au départ. C'est-à-dire que cette révolution dans la mentalité arménienne et du rapport à l'écriture, il l'a presque lui-même vécu dans sa propre vie, parce que c'est un fonctionnaire.
Lui-même est un fonctionnaire. En réalité, il est né dans un village qui s'appelle les Petits Êtres, qui est juste à la frontière de l'Empire byzantin, si bien qu'il a été, nous dit-on, nourri aux lettres grecques dès son enfance. Donc il parlait très bien le grec et l'arménien. Et c'est pour ça qu'il a été accueilli à la cour du roi de, j'ouvre les guillemets, Perse-Arménie. C'est-à-dire d'un territoire arménien réduit dont les Perses avaient installé un monarque à leur dévotion. Et là, malgré tout, il fallait bien faire les comptes des tribus que payaient les paysans, quelques correspondances diplomatiques, et donc on avait besoin de personnes qui savaient écrire en grec pour tenir la chancellerie du roi. Et on l'a mis spécialement aux affaires fiscales. Aux affaires fiscales, il faut bien se représenter que ça n'était pas une position de tout repos. Il y avait d'une part la bureaucratie, mais d'autre part, il y avait la collecte par la force des armes sur le terrain. Il fallait emporter des soldats ou emmener des soldats avec soi et faire en sorte de récolter l'impôt en se montrant persuasif à l'égard de certains contribuables récalcitrants. Hein. Et on nous dit que la première expérience de Machtos, c'est que il fut aimé de ses soldats. C'est la première chose qu'on nous dit. Il était très aimé des soldats et curieusement, il avait aussi la sympathie des contribuables. C'est un meneur d'hommes et un homme de terrain en premier lieu. Et puis on nous dit que, alors il pouvait le faire parce qu'il savait le grec, il se mit à lire l'évangile et il y mit d'abord simplement la main et ensuite l'épaule, le bras, il passa tout entier.
Ce sont les mots de Corioun.
Ce sont les mots de Corioun. Et il en fut tout à fait illuminé. Alors, il lit cet évangile, et la question qui se pose, c'est aussi un mot très étrange. Il dit, quand il eut compris la mesure de l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire la mesure de l'évangile? Ça veut dire, il faut pardonner, non pas une fois, deux fois, ni sept fois, mais 77 fois, sept fois. Alors, ça veut dire que, tout à coup, non seulement il est chrétien, mais il devient maximaliste en tout. Et à ce moment-là, il convainc également quelques-uns des soldats qu'il avait sous ses ordres, et ils s'en vont dans la montagne. Ils s'en vont dans la montagne pour faire la cesse. Alors là, il y avait des modèles qui étaient bien connus dans le sud de l'Arménie. C'était des modèles de saints de Syrie ou de Syro-Mésopotamie. Ces saints, vous voyez, le problème de la Syro-Mésopotamie, c'est que c'était un pays trop peuplé. Alors, les moines qui voulaient faire des prières, ils cherchaient des endroits reculés, mais ils étaient toujours rattrapés par les villes et par les populations. Ils avaient beau monter en haut des colonnes, on n'avait pas la paix en haut d'une colonne quand on était un saint stylite. Il y avait toujours des gens qui prenaient la corbeille pour poser des questions, pour faire ceci et cela. Donc, on allait vers le Caucase. Et le Caucase, on croyait qu'on serait tranquille. En réalité, on finissait par être découvert par un roi ou par un chasseur, etc. Mais il y avait toutes sortes d'exercices qui étaient codifiés, qui étaient apprendre à passer toute la nuit debout, sans sommeil, en papillotant des yeux, nous dit Mashtots. Ou bien encore prier les bras étendus, comme ça, pendant des heures. Ne jamais boire quoi que ce soit. Mais manger simplement des herbes mouillées et bien sûr rien d'autre chose. Alors donc il fait ça pendant tout l'été avec son groupe de soldats, et quand il revient, il descend dans les vallées, il reste avec 3-4 personnes, 5 personnes dans un village, et il essaie de prêcher l'évangile aux paysans. Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en réalité, les paysans, qu'est-ce qu'ils savent de l'évangile? Ils savent les quelques mots qu'ont pu leur dire les prédicateurs. Mais personne n'a jamais entendu une lecture de l'évangile au cours d'un service religieux. Pour la bonne raison qu'il n'existe pas d'évangile traduit en arménien. Qu'est-ce qu'on fait? On traduit, on lit en grec ou en syriaque, et puis on improvise une traduction. Mais c'est très ennuyeux, c'est très difficile, les gens ne savent pas faire cette chose-là, et donc Mesrop Mashtots ne va pas tarder à s'apercevoir des limites de ses possibilités.
Oui, c'est-à-dire que de surcroît, comme on est dans ce cadre-là, vous expliquez qu'il peut y avoir des contacts du coup fugitifs avec l'évangile, mais que ça ne se pérennise pas, ce n'est pas...
On ça ne reste pas, on peut pas inscrit s'approprier. Dans la mémoire. Donc ouais. L'idée, c'est qu'il faut... vous voyez, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, je pense, c'est que le contact entre la rupture, finalement, entre les juifs et les chrétiens, a été quelque chose d'assez tardif, au fond. Elle n'est vraiment consommée que vers le milieu du IIe siècle. Par conséquent, et alors évidemment là on est beaucoup plus tard, on est au début du 5e siècle. Alors, mais l'héritage, vous voyez, du judaïsme du Second Temple dans les premières communautés chrétiennes, particulièrement les communautés du Proche-Orient, a été considérable, et il est considérable en arménien. En arménien, on a des tas d'écrits qui sont non pas traduits de l'hébreu ni de l'araméen, mais traduits du grec, mais dont les auteurs étaient des juifs de l'époque, ou des judéens, on devrait dire, de l'époque hellénistique. Et donc...
Ils ont leurs propres sources.
Et puis il y a la Bible qui nous raconte comment, après l'exil, le peuple s'est réinstallé. Le sage Esdras a réussi à reconstituer les écritures qui étaient perdues, enfin, d'après des méthodes un petit peu étranges, en buvant des infusions de cendres de livres brûlés. Et après ça, on a fait des lectures dans les synagogues. Et donc, c'est l'idée que se fait Mesrop Mashtots pour que les Arméniens deviennent un vrai peuple croyant. Il faut qu'ils deviennent un peuple du livre, comme les Hébreux. Et c'est ça qu'il veut faire.
Alors évidemment, il est confronté à un problème extrêmement pratique, c'est la nécessité de créer cet alphabet. Alors il y a une première tentative, mais qui est fruit d'un compromis politique, d'après ce que vous nous expliquez.
Eh bien oui, j'en suis persuadé. En effet, créer un alphabet, c'était extrêmement dangereux. Parce que l'alphabet est
déjà la géopolitique,
un moyen de défense. Un moyen de défense à la fois contre le grec. L'alphabet arménien est un moyen de défense à la fois contre le grec et à la fois contre le zoroastrisme, contre les Iraniens.
Oui, parce qu'il faut peut-être préciser qu'à ce moment-là, dans la longue histoire de l'Arménie, ça se répétera, mais c'est un petit pays qui est confronté à des voisins déjà beaucoup plus puissants. D'un côté, l'Empire perse, de l'autre, l'Empire byzantin, et qui lutte d'ores et déjà pour son indépendance, fût-elle spirituelle.
Voilà, quand on dit l'Arménie est un petit pays, on a certainement raison. Aujourd'hui, elle fait 29 000 km².
Oui, au regard de ses voisins, hein, je voulais dire.
Il faut dire qu'en 387, quand elle est partagée pour la première fois, le royaume d'Arménie fait 500 000 km². Est plus grand que la France, hein, à l'heure actuelle. Effectivement, c'est pas grand-chose à côté de l'Empire romain et à côté de l'Empire sassanide. Mais c'est quand même un très gros morceau. Et disons que les mieux placés, qui ont été les Romains, n'est-ce pas, ont décidé qu'ils garderaient l'Arménie dans leur périmètre, dans leur zone de sous leur influence, mais que jamais ils n'essaieraient d'en faire une province. Ça, c'est écrit dans le testament d'Auguste sur la stèle d'Ankara. Hein. Le seul qui ait osé transgresser la vie d'Auguste, c'est Trajan, et ça lui a pas réussi. Ça s'est terminé par une catastrophe militaire à laquelle Hadrien s'est dépêché de mettre fin. Après ça, je veux dire, avec l'arrivée des Sassanides, des Perses Sassanides au IIIe siècle, eh bien, la situation s'inverse. Et les Sassanides croient qu'ils vont pouvoir manger l'Arménie sans avoir de brûlure d'estomac. Et en réalité, c'est pas du tout comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En 387, on a donné un tiers de l'Arménie aux Romains, qui ont essayé de l'assimiler et qui n'y ont pas réussi, malgré la brutalité de leur méthode. Et ensuite, les deux tiers restants étaient beaucoup trop gros pour être digérés sans douleur. Et on en a donné une partie aux Géorgiens, on en a donné une partie à un autre peuple qu'on appelle les Albaniens, qui sont sur le territoire de l'actuel Azerbaïdjan. Et dans le reste, eh bien, il fallait surveiller étroitement ce que faisait le monarque de Perse-Arménie.
Et c'est à ce moment-là que
le monarque, qui avait déjà eu plusieurs, enfin dont le frère avait été déposé du trône, etc., quand on lui a parlé d'alphabet, il a vu tout de suite les ennuis se pointer, parce que ça posait un problème, politique. Immédiatement. Et donc, il s'est dit, le seul moyen de ne pas éveiller la méfiance des Perses, c'est de faire semblant, faire semblant, c'est Mashtots qui a dit faire semblant, mais c'est d'adopter un alphabet qui a déjà eu cours dans l'Empire sassanide. Du moment qu'il a déjà été autorisé, on ne nous accusera pas d'hellénophilie, on ne nous a pas de choses subversives, puisque ça a été autorisé. Et donc, il met en rapport Mesrop Mashtots avec un moine qui s'appelle Daniel. Alors ce moine, on sait, un évêque qui s'appelle Daniel. Ce Daniel, on ne sait absolument pas où il était. Probablement, il était dans une zone du sud-ouest de l'Arménie. Il avait donc parmi ses paroissiens des Arméniens, des gens de langue syriaque, et des Perses, des Iraniens. Et il a dû retrouver une espèce de, comment dire, de cryptogramme ou de syllabaire avec lequel il a essayé d'écrire de l'arménien. Alors, naturellement, un homme, je veux dire, de l'expérience de Mesro Pashtots, ne pouvait que prévoir, et, hein, il prévoyait certainement que cet alphabet ne fonctionnerait pas pour l'arménien. Mais il n'avait pas le droit de dire non au roi. Parce que, finalement, le roi agissait par prudence et dans l'intérêt. Donc, il a dit, bon, très bien, on va créer une classe expérimentale et puis on va essayer l'alphabet. Et il a essayé l'alphabet pendant 2 ans. Et au moment où le roi lui dit, bien, il faudrait que la classe expérimentale devienne un peu plus ouverte, il a dit, bien, il faut faire un voyage d'études en Mésopotamie, rencontrer l'inventeur et essayer de comprendre comment on va améliorer, parce qu'il reste encore quelques petits problèmes. Et donc, il part en Mésopotamie avec ses élèves. Alors, il va d'abord à Diyarbakır, l'actuel Diyarbakır, qui s'appelait Hamid ou Hamida à l'époque. Et ensuite, il va à Edesse, qui s'appelle Urfa, aujourd'hui, ou bien même Chanle Urfa, d'après la terminologie, je dis, d'après la toponymie turque actuelle, n'est-ce pas ? Et c'est probablement dans l'école d'Urfa où l'on traduisait à l'usage des fidèles de l'Empire perse, on traduisait les Grecs en syriaque, en langue syriaque. C'est à ce moment-là qu'il a personnellement, enfin par ses études, inventé un alphabet qu'il a noté lui-même, de sa main. Mais il faut bien voir que le but de cette invention était surtout liturgique. Il ne s'agissait pas d'écrire des correspondances privées ou d'écrire son journal avec l'alphabet. Il s'agissait d'écrire des très gros livres faisant partie du mobilier des églises, des évangiles, principalement, mais éventuellement des lectionnaires, etc., des livres énormes qu'on pose sur un pupitre, qu'on lit de loin, et surtout qui doivent être écrits d'une façon monumentale pour faire honneur à la parole de Dieu. Alors, il va voir un designer célèbre qui se trouvait dans la ville de Samosate et qui s'appelait Ruffin.
Qui est donc un calligraphe. Et, hein.
Un calligraphe, n'est-ce pas ? Et ce calligraphe prend... Alors, vous savez, il avait avec lui deux classes d'élèves. Deux classes d'élèves. Et encore une fois, c'était des enfants, hein, ces élèves. Ils avaient 12, 14 ans. Enfin, ils avaient à peu près cet âge-là, on peut le supposer. Et... il avait des moniteurs avec ses élèves. Il y en avait deux, un qui s'appelait Jean, l'autre qui s'appelait Joseph. Et donc, pour enseigner à écrire le nouvel alphabet, il fallait employer les méthodes qui étaient courantes dans l'Antiquité, c'est-à-dire faire copier des sentences. Vous savez, en grec, par exemple, on a des cahiers d'exercice « comme les dieux » ou « autant que les dieux adorent les vieillards » ou « vénèrent les vieillards hein. ». Bon, mais on ne pouvait pas faire apprendre des sentences païennes à
c'était
des enfants
l'objet.
Chrétiens. Hein. Donc, il fallait les sentences de Salomon. Donc, il prend les proverbes de Salomon et, proverbe après proverbe, il écrit à sa façon. Ruffin, le calligraphe, transforme ça en magnifique écriture monumentale. Les deux moniteurs, Jean et Joseph, recopient de leur mieux et après, ils font copier les enfants. Et à la fin de l'opération, on a peut-être 40 ou 50 exemplaires qui ont été copiés à la fois de la nouvelle traduction du livre des Proverbes.
En tout cas, le calligraphe a bien travaillé parce que les reproductions que vous en donnez dans le livre, car le livre est constellé d'illustrations, montrent à quel point cet alphabet est superbe.
C'est un alphabet magnifique. Évidemment, il a évolué par la suite dans le sens que il y a une tendance, vous savez, à rendre les écritures de plus en plus cursives. Hein, et on est arrivé à la minuscule médiévale et puis ensuite à la cursive actuelle qui est quand même assez différente de ce qui est dans cet ouvrage. Et alors, il rentre à ce moment-là. Il lui reste plus qu'à rentrer. Et il rentre il est suivi par une escorte militaire, ou même accueilli, devancé par une escorte militaire. Il traverse toute une partie de l'Arménie, et quand il arrive sur le fleuve Arax, c'est-à-dire tout près de la ville royale de Varshapat, à ce moment-là, on vient, le roi, les évêques, le peuple entier vient à sa rencontre pour le recevoir triomphalement. Et là se situe un épisode qui nous étonne, nous. Cet épisode, c'est que il dit une comparaison qui paraît incongrue. On nous dit, je ne dirais pas que Mesrop Mashtots était comparable au grand Moïse descendant du mont Sinaï avec les tables de la loi. Non, il ne lui était pas comparable. Il lui était de beaucoup supérieur, il dit. Parce que, au fond, Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, l'écriture donnée par Dieu, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les Hébreux qui étaient en train d'adorer le veau d'or. Et donc, il est tellement malheureux qu'il laisse tomber les tables, elles se cassent, il a fallu les réécrire, enfin, vous voyez, le genre de choses, n'est-ce pas ? Et au contraire, lui, il a porté l'écriture donnée par Dieu, il a trouvé un peuple fidèle, il a trouvé aussitôt quelque chose d'extraordinaire. Car à ce moment-là, voilà que Moïse et tous les prophètes se sont mis à parler arménien. Voilà ce qu'il nous raconte dans l'histoire.
Oui, mais c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'au-delà d'histoire, on voit qu'il y a une vision, eschatologique des choses, et un projet quand même de sanctifier le peuple arménien, non seulement par la conversion, mais il devient en quelque sorte l'héritier, le dépositaire d'une tradition qui aurait été gâchée par d'autres, au-delà de Moïse. Est-ce que vous nous expliquez cela dans une sorte de vision des fins dernières et de l'histoire de l'humanité qui se mêle?
Oui, d'une part, il faut penser, si vous voulez, à l'iconographie chrétienne de cette époque. C'est-à-dire, on a une très belle mosaïque qui se trouve dans le baptistère du Sauveur, Sauter, à Naples, et qui est exactement contemporaine de l'invention de l'alphabet arménien. Elle représente Jésus dans le paradis. On voit que c'est le paradis parce qu'il y a des palmiers partout, c'est-à-dire des phénix partout. Et il donne la loi à Pierre. Et au fond, Pierre, sur cette mosaïque occidentale, prend la place de Moïse. Eh bien, l'invention de l'alphabet a été ressentie par les Arméniens comme une datio legis, une donation de la loi et de l'écriture aux Arméniens. Comme si, personnellement, à l'image de Moïse, Mashtots avait rencontré Dieu et avait reçu la loi et l'écriture. Alors, là, il y a un côté mystique de la chose qui nous est expliqué justement dans le panégyrique de Vartan. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Essentiellement, c'est un remède contre l'oubli de Dieu. Au début, quand Adam vivait au paradis, il voyait Dieu tous les jours,
c'était l'osmose.
Si je puis dire. Il voyait Dieu tous les jours, donc il n'y avait aucun danger d'oubli. Une fois chassé du paradis, je ne parle pas des caïnites, malheureusement, enfin, ceux-là, ils étaient déjà perdus, mais les fils de Seth sont restés sur la Sainte Montagne, ils entendaient les chants des anges, et ils se racontaient toutes les merveilles que Adam leur avait racontées. Jusqu'au moment où ils se sont mariés avec les filles caïnites, et à ce moment-là, les justes sont restés très peu nombreux sur la Sainte Montagne, et Enoch, voyant que tout allait mal, a fait une écriture d'avant le déluge. Malheureusement, cette écriture est perdue, puisque tout a été détruit par le déluge. Et il n'y avait pas d'écriture, nous dit-on, dans l'Arche de Noé. Et après le déluge, ce sont les païens qui ont inventé les écritures, les Mésopotamiens, etc., etc. Et donc, et même les Grecs, qui font partie de ces païens. Par conséquent, l'écriture a fait que l'idolâtrie s'est répandue dans toute la terre. Et c'est pour ça que Dieu a donné l'écriture à Moïse. Hein. Et pour, comme ça, les Hébreux ont conservé la mémoire du vrai Dieu. Et puis, de nouveau, au moment du Christ, il y a eu un moment d'union des hommes et de Dieu, mais petit à petit, la mémoire des apôtres, les apôtres ont disparu, la mémoire a commencé à s'effacer, et là, malheureusement, c'est en grec qu'on a écrit l'évangile. Et c'est parce que l'évangile, alors il y a quelque chose de très radical, de très intolérant hein, à cette époque, dans les relations entre les églises à cette époque, et donc il nous dit c'est parce que l'évangile a été écrit en grec qu'il y a eu toutes les erreurs, et en particulier l'erreur impardonnable du concile de Chalcédoine, qui a divisé le Christ en deux. Hein. Ils ont coupé le Christ en deux. Ils ont transformé...
Entre nature humaine et nature divine, c'est ça ?
Oui. Et ils ont transformé la Trinité en quaternité. Hein. C'est ce que disent les Arméniens. Et c'est parce que Dieu prévoyait ce scandale qu'il a donné aux Arméniens une écriture qui leur a permis de conserver la foi très pure qu'ils avaient reçue de Grégoire l'Illuminateur et par lui des apôtres.
Donc ils sont une sorte de nouvel Israël et d'Israël ultime.
Absolument. Ils sont une sorte d'Israël utile. En tout cas, ils sont le dernier petit reste d'Israël. Voilà ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez surprenant, si vous voulez, si vous allez... En Arménie, il est très normal que quelqu'un s'appelle Israël Abrahamian. C'est très normal.
Ce qui signifie
Israël, fils d'Abraham. Ou bien Saakian, fils de Saak. Vous voyez ? Donc c'est un nom de famille, un prénom, un nom de famille très, très normal. Il s'appelle Israël, Torkom, Abraham, etc. Le lien avec l'Ancien Testament est extrêmement fort encore aujourd'hui dans le christianisme arménien.
Oui, car comme vous l'expliquez, il s'abreuve à des sources différentes qui ne passent pas par le monde grec. Pas seulement par le monde grec.
C'est-à-dire, ils ont, vous voyez, au moment où il y a eu la rupture, c'est-à-dire après la révolte de Bar Kochba, en 135 de notre ère, 135-137, bien sûr, ça a mis un certain temps, il y a eu une répression sanglante qui a conduit à la fondation, on peut dire, du judaïsme rabbinique. Hein. C'est la fin de la période du Second Temple, le Temple n'existait déjà plus depuis 70, c'est la naissance du judaïsme rabbinique. Et à ce moment-là, comme on s'est réhébraïsé, n'est-ce pas ? Les Hébreux se sont réhébraïsés. Eh bien, ils ont laissé tout l'héritage hellénistique du Second Temple. Et c'est devenu l'apanage des chrétiens orientaux, des chrétiens, notamment des chrétiens orientaux. Donc, on a un tas d'histoires qui sont uniquement en arménien et qui sont purement juives et qui ont servi à la fondation du christianisme arménien.
Voilà, l'histoire est pleine de ruses, et là, en l'espèce, on a une langue volontairement nationale, promue pour pouvoir se protéger d'influences extérieures, et qui finalement devient le réceptacle de trésors communs à l'humanité.
C'est-à-dire que, véritablement, vous savez, quelquefois, on parle un petit peu du mythe de la bibliothèque d'Alexandrie, n'est-ce pas ? Si les Arabes, dit-on, n'avaient pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, combien de livres auraient été sauvés ? En réalité, si vous allez au Matenah Dharan, qui est l'Institut des manuscrits, vous allez trouver des tas de livres introuvables qui existaient dans la bibliothèque d'Alexandrie qui ont été traduits en arménien.
Alors pour revenir à cette façon dont l'histoire locale et mondiale et même spirituelle, une vision spirituelle de l'histoire de l'humanité se retrouve dans cette histoire. Peut-être peut-on évoquer la situation qui est celle de l'Arménie au moment où le second auteur, Vardan Areveltsi, écrit donc son panégyrique des saints traducteurs. Dans quelle situation se trouve à ce moment-là
Eh bien, il est dans une situation dramatique, parce que à partir du XIe siècle, l'Arménie voit se succéder toutes sortes d'invasions et de calamités terribles. La première, ça a été l'arrivée des Turcs Seljoukides qui venaient du Khorasan, où ils avaient créé un sultanat, et qui ont envahi toute l'Asie mineure entre 1064 et 1075. Et les Arméniens, alors une partie de la noblesse, s'est réfugiée de l'autre côté des montagnes de la péninsule d'Asie mineure, c'est-à-dire le Taurus, l'Antitaurus, etc. Et ils ont créé un nouveau royaume. Et puis, petit à petit, l'existence de ce royaume, et surtout la reconquête géorgienne. Les Géorgiens, qui étaient mieux retranchés derrière leurs montagnes, ont pu chasser les Turcs de toute la moitié nord-est de l'Arménie. Ont créé un morceau, une survivance de l'ancienne Arménie à côté de la Cilicie. Alors donc la carrière de Vartan, que j'ai évoquée tout à l'heure, au fond se situe entre ces deux pôles, entre la cour du roi qui est en Cilicie et le domaine protégé par les rois de Géorgie, où il y a des princes arméniens qui sont là et qui jouissent d'une certaine indépendance, et où les ordres monastiques, les congrégations monastiques, parce qu'il n'y a pas d'ordre en Arménie, c'est-à-dire il n'y a pas de fédération de congrégations, ont une très grande puissance. Et donc il revient de Cilicie, il vit comme théologien, comme conseiller de l'ensemble des monastères du nord-est contrôlés par les Géorgiens. Alors arrivent là-dessus de nouveaux envahisseurs. Ce sont d'abord les Mongols, ensuite ça va être les Turcomans, c'est-à-dire Tamerlan. Hein. En fait, donc ça va être quelque chose d'absolument terrible. Alors, dans cette situation de tension, de crainte, d'inquiétude, il y a plusieurs attitudes possibles. Il y a l'attitude apocalyptique, si vous voulez. C'est-à-dire de se dire, bon, les Mongols arrivent, ce sont les cavaliers de l'Apocalypse, ce sont les gens de la fin des temps, ne rien faire et attendre la fin du monde. Ou bien, il peut y avoir une réflexion, vous savez, là encore, c'est un héritage qui est du judaïsme du Second Temple, qui est la pensée apocalyptique, c'est-à-dire la crise que nous vivons montre que la fin du monde est proche, parce que les forces du bien sont en train d'affronter les forces du mal. Mais ne craignons rien, parce qu'on a toujours des apocalypses rassurantes, n'est-ce pas ? Pendant 1000 ans, le Christ va revenir, il y aura un nouveau roi en Arménie, etc. etc. Et il faut tendre écarter toutes ces angoisses. Et puis, simplement, il y a la position de Vartan qui lui, il est entre guillemets un jeu gnostique au sens des vagres le pontique. C'est-à-dire ce qu'il veut, c'est la sérénité intérieure et la confiance dans la Providence. Il ressemble un petit peu aux hésychiastes, vous savez, dans l'histoire de la Russie, au moment où, justement, à la veille du moment où Dimitri Donskoï va battre les Mongols. Nous sommes dans cette période. Et ça explique la structure de l'œuvre.
Donc la période est à l'apocalyptisme et à la pensée apocalyptique, mais lui, il la sublime il la dépasse.
Il la sublime et il la dépasse. C'est exactement ça. Et donc, il va raconter à sa façon l'histoire des saints traducteurs. En réalité, il a beaucoup élargi, c'est ça ce qui nous frappe, c'est que les saints traducteurs sont devenus le symbole de ceux qui ont construit l'identité arménienne. Non seulement ils ont traduit la Bible, l'Évangile et tous les pères de l'Église, mais ce qui est un anachronisme complet, ils ont aussi traduit tous les arts païens, toutes les sciences qui sont dans les manuscrits arméniens. Hein. Donc leur liste s'est beaucoup allongée et elle est tout à fait anachronique. Et une fois qu'ils eurent traduit tout cela, ils sont rentrés en Arménie, ils avaient dû aller à l'étranger pour apprendre toutes ces choses, ils sont rentrés en Arménie, ils ont trouvé le pays dans le malheur, dans la catastrophe, à cause des péchés des hommes. Et donc ils se sont réfugiés dans des monastères où tous ces trésors sont intellectuels, sont conservés. Et donc le discours est une alternance de récits et de plaintes. De plaintes lyriques sur le sort de l'Arménie et aussi d'ailleurs sur l'éloge de l'écriture qui permet justement d'aller au-delà, de dépasser, de retrouver tout ce qui était perdu, toutes les époques de bonheur et de retrouver la sérénité justement pour attendre la fin.
Donc l'écriture est le véhicule d'une possible rédemption, en quelque sorte.
Absolument, absolument.
Alors ces textes sont intégrés à une liturgie, ce ne sont pas seulement des œuvres qu'on peut les consulter, que vont consulter des savants, des érudits, ce sont des textes qui, je crois, aujourd'hui encore, font partie peu ou prou...
Pas tout à fait. Parce que Koryoun, finalement, en effet, a été écrit d'abord pour être lu intégralement à la fête des saints traducteurs qui se célébrait après la Sainte Croix, au mois de septembre, enfin un certain temps après la Sainte Croix, au mois de septembre, et sur le tombeau même de Koryoun, qui était... sur le tombeau même de Mashtots, je veux dire, qui était dans une chapelle de l'Arménie, qui existe toujours d'ailleurs, et il y a des fresques que nous montrons hein, dans cette édition. Et puis, c'était très long. Il fallait bien une heure au moins pour déclamer toute cette vie. Donc, on a fait d'abord des extraits et après, on a fait un résumé. Et alors, le résumé n'est pas un résumé exact parce que plus le temps passe et plus le personnage devient mythologique par conséquent... Il perd sa substance historique. Par exemple, c'est très clair que dans la vie de Mashtots, que nous traduisons ici, l'alphabet est une invention savante. Hein. C'est-à-dire, c'est une pieuse invention, mais une invention savante quand même. C'est à la suite d'un raisonnement que l'auteur y arrive. Tandis que, dans le résumé, c'est un miracle. C'est-à-dire, tout à coup, Mashtots est en prière, il a une vision, il voit une main divine qui écrit, et il n'a plus qu'à copier ce que la main écrit, donc il n'a rien inventé, en fin de compte. Il n'a rien inventé, il a été bénéficiaire d'un miracle. Hein. Et d'autre part, à ces époques plus tardives, le catholicos, au fond, devient la seule autorité représentative du peuple arménien. Donc, au lieu de dire du bien du moine qui travaille tout seul, on va surtout exalter la figure du catholicos Saint Saak, qui était le contemporain.
Et compagnon.
Et compagnon. Et finalement, les faits sont totalement altérés dans cette façon de voir.
Oui, on réintroduit la figure hiérarchique pour la valoriser.
Alors, aujourd'hui, on célèbre la fête des saints traducteurs, toujours pareil, mais on ne lit plus, ni l'histoire, ni le résumé. On se contente de cantiques qui racontent la même chose, mais d'une façon très abrégée.
Et dans l'histoire profane de l'Arménie, quel est le statut de ces saints traducteurs aujourd'hui, je veux dire, dans les écoles, publiques ou autres?
Ah ben, dans les écoles, c'est un motif d'adoration, si je puis dire. Je suis allé en Arménie en 1975 pour la première fois comme lecteur à l'université d'Erevan, et j'avais avec moi mes trois enfants. Et ils sont allés à l'école arménienne, ils ont appris l'alphabet, et ils ont été... il y avait une cérémonie traditionnelle qui était... Alors, dès qu'un enfant savait l'alphabet et savait lire et écrire, on l'emmenait pour faire une photographie. Alors, il y avait le mont Arara, d'un côté. De l'autre côté, il y avait Mesrop Mashtots, le premier maître d'arménien, l'enfant au milieu, et de l'autre côté, camarade Intel, mon professeur, mon premier professeur d'arménien. Et en dessous, il y avait écrit « Oublie plutôt le nom de ta mère », une poésie. « Oublie plutôt le nom de ta mère, mais n'oublie jamais l'écriture arménienne ». Et voilà, c'était le sentiment. Après ça, tous les enfants, le 1er janvier, ou plutôt le 6 janvier, qui est la fête de Noël pour eux, étaient réunis et devant la télévision, ils récitaient, enfin, des centaines d'enfants qui avaient appris l'alphabet dans l'année, récitaient l'alphabet devant la caméra de télévision, et les gens regardaient ça comme une chose importante, la plus belle promesse pour l'avenir.
Écoutez, voilà qui nous donne de l'inspiration. On pourrait faire des choses comme ça ici en France, et peut-être même face à la coupole, vous imaginez, les enfants réunis dans la cour pour réciter pour la première fois l'alphabet, ce serait superbe.
Mais vous voyez, il y a même une image où on présente des enfants qui sont en train de saluer l'inventeur de l'alphabet. Il y a une image assez... extraordinaire, où on voit une petite fille qui porte l'uniforme des pionniers et qui est une écolière qui est en train de saluer l'inventeur de l'alphabet parce qu'on l'a amené justement pour célébrer cette fête.
Monsieur, merci beaucoup de cette évocation. Merci pour votre talent de conteur aussi. Il est vrai que le sujet s'y prête car c'est une vie épique. Je précise tout cela pour que nos auditeurs comprennent bien que l'on peut se plonger dans l'alphabet arménien, dans l'histoire et dans la mémoire. Les textes de Koryoun et de Vardan Aravelsi, présentés par Jean-Pierre Mahé, sans être soi-même un érudit, un spécialiste des études caucasiennes. C'était la portée de chacun. Il suffit de se laisser porter par le caractère épique et par sa passion. Je précise donc que c'est aux éditions des Belles Lettres. Et enfin, ne nous quittez pas tout de suite, car Jean-Pierre Mahé est arrivé avec un cadeau. Nous allons en effet terminer pour une fois en musique, en écoutant les odes de Saint-Grégoire de Narek, dans une interprétation récente par des artistes arméniens. Mais je précise que ce sont des odes du 6e siècle, c'est ça ?
Non, en réalité des mélodies du 5e au 10e siècle.
5e au 10e siècle, et donc nous allons vous en passer quelques extraits. Merci de votre fidélité, et merci à vous, monsieur.
Thank you.